Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité.
Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités
et on se fait aller Mâche Patate!
Cet épisode est une présentation de Caribou, le magazine de la culture culinaire québécoise raisonnée. En format papier ou sur le web, Caribou est la référence des médias qui traitent en profondeur les enjeux agroalimentaires et gastronomiques au Québec. Dans son dernier numéro, présentement en kiosque, Caribou met la famille en vedette avec un grand dossier sur les fermes familiales, s'intéresse aux familles des légumes et s'invite dans les familles des chefs Martin Picard et Stefano Faeta. Rendez-vous à caribou-mag.com.
Bonjour, bienvenue au Mâche Patate, le podcast des urbains culteurs, un organisme à but non lucratif basé à Québec qui fait la promotion du jardinage et de l'agriculture urbaine depuis 2009 en réalisant des aménagements potagers, en faisant de la sensibilisation et de l'éducation et en offrant des produits de jardinage urbain dans notre boutique et en ligne sur urbainculteur.org. Je m'appelle Marie-Hélène Dubé, je co-anime Mâche Patate avec ma collègue Marie-André Asselin. Salut!
Salut Marie-Hélène!
Ça va bien?
Oui, très bien toi!
Oui! Alors, de quoi on parle aujourd'hui Marie-André?
Aujourd'hui, on va parler d'alimentation, d'une culture en particulier qui clairement laisse personne indifférent. Bon, Marie-Hélène, si je te donne quelques indices. Okay. Est-ce que tu connais une culture qui est peu connue au Québec, mais qui est assez répandue dans le monde, qui prend peu d'espace et peu de ressources, et surtout qui regorge de protéines?
Plein de protéines. J'irais des insectes.
Oui, les insectes, bravo. En fait, il y a un rapport des Nations Unies qui date de 2013 qui mentionne la culture d'insectes comme une solution à la problématique de sécurité alimentaire dans le monde, causée particulièrement par le manque de ressources de plus en plus criant. Aussi, on sait que l'élevage d'insectes est tout à fait adapté à l'agriculture urbaine. Donc, c'est pas rien. Puis, on se doit de prendre le temps de consacrer un podcast à cette thématique. Alors, aujourd'hui, on reçoit Jérôme Fortin-Légaré, qui est président et cofondateur de Neoxys, une entreprise qui a été formée en 2016. Puis je crois que je me trompe pas en disant que vous êtes la première entreprise à Québec à se consacrer, à se spécialiser, dans la production et la transformation d'insectes destinés à la consommation humaine et animale. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Merci de participer au Mâche Patate. D'entrée de jeu, une question qu'on doit te poser tout le temps. Quelle est la motivation qui t'a poussé à monter ton entreprise de production insectes et pourquoi?
Ben, en fait, vous l'avez mentionné dans l'introduction, ce qui a démarré l'industrie de la production des insectes en Amérique du Nord principalement, c'est le rapport de la FAO en 2013 qui mentionnait qu'il pourrait y avoir un problème de sécurité alimentaire d'ici 2050. Mm-hmm. Puis qu'on devait apporter des solutions alternatives pour les protéines, donc les productions animales principalement, et aussi des productions végétales. Puis, je vous dirais que l'idée de partir Neoxys est venue de là. La raison étant que on était conscient qu'il y avait cette problématique-là, moi et mon associé. Puis, on voulait apporter, oui, une source de protéines qui était éco-responsable, mais aussi qui était nutritive, naturelle. Mais on savait qu'on devait adapter ce modèle-là pour le modèle nord-américain. Mm-hmm. Parce que notre réalité n'est pas nécessairement la même que dans les pays sous-développés, par exemple.
Du tout.
Ici, oui, tu sais, il y a la sécurité alimentaire, la nation, si je peux dire, le pays en tient compte, mais c'est pas une problématique qu'on vit directement, par exemple, ici, dans la ville de Québec. Oh, pardon.
Non, c'est à beaucoup plus petite échelle, en tout cas, quand il y a des problèmes de sécurité alimentaire.
Exactement. Ici, ouais. Exactement. Donc, on devait adapter un modèle de production des insectes, mais qui répondait vraiment aux besoins de l'Amérique du Nord en tant que telle. Donc, c'est de là qu'est partie Neoxys.
Puis, est-ce que vous avez comme un objectif clair? Ça serait quoi l'objectif de votre entreprise?
Bien, c'est sûr que notre objectif, c'est d'apporter une source de protéines alternative. C'est pas nécessairement de remplacer une source de protéines. Okay. On n'est pas là pour démoniser l'agriculture conventionnelle. Mm-hmm. On n'est pas là pour dire que les producteurs de bœuf, de porc, de poulet, peu importe, c'est, mm-hmm. c'est les méchants de l'industrie. Mm-hmm. On est là tout simplement pour apporter une diversité dans l'offre. Mm-hmm. Puis en intégrant les insectes comme ça, ben je pense que ça donne une diversité, oui, mais en même temps, je pense que les gens sont curieux de pouvoir intégrer ça dans leur alimentation. Puis pour nous, ben c'est une protéine qui est très bonne sur un plan nutritif. C'est naturel également, nos procédés d'élevage et de transformation, on n'intègre pas de produits chimiques.
Okay.
Puis en même temps, ben c'est éco-responsable, donc c'est ce qu'on vise.
Justement, je me demandais, on parle d'insectes, mais est-ce que tu pourrais nous dire quel insecte vous cultivez en particulier dans ton entreprise, puis pourquoi vous avez choisi cet insecte-là?
Nous, c'est le Ténébrion meunier. Au départ, quand on a fondé Neoxys, en fait, on avait un autre nom. c'était les fermes BioCric.
OK.
C'était BioCric, vous l'avez sûrement deviné, cric pour criquet.
Uh-huh. Oui.
On s'est informé beaucoup. L'Europe était plus avancée que nous sur un point de vue de production, d'élevage des insectes. Donc, on s'est informé beaucoup en Europe. On a regardé ce qui se faisait. On a discuté avec des entreprises qui étaient déjà bien établies. Puis, on s'est rendu compte que le grillon, le criquet, n'était pas nécessairement l'insecte qu'on voulait produire ici, chez Neoxys. La raison étant que pourquoi on voulait faire l'insecte, c'était pour utiliser le moins de ressources possible, le moins de superficie possible, puis d'être le plus efficace possible. Parce que si on veut avoir un impact majeur, ben je pense qu'il faut être capable de produire des quantités qui sont quand même relativement importantes. Mm-hmm. Parce que si, c'est correct de le faire pour une consommation personnelle, peu importe, mais si on veut avoir vraiment l'impact en tant que tel, ben il faut pouvoir l'intégrer dans le quotidien des gens. Puis le ténérum meunier permettait ça. Le grillon, on trouvait que c'était plus difficile d'avoir une production qui était efficace.
OK. Ça prend plus de ressources, plus d'espace?
Plus d'espace, okay. Bien souvent. Ils appellent ça... Il y a une entreprise en Ontario qui dit qu'ils font du pâturage ouvert, en fait, pour le grillon. Puis pour nous, c'était pas un modèle qu'on voulait adopter parce qu'on voulait réduire justement l'essence de Neoxys. C'est, vous l'avez mentionné tantôt, c'est de réduire la superficie utilisée, réduire les ressources. Donc, c'était pas nécessairement l'insecte qu'on a visé. Le ténébrion meunier nous permettait d'avoir une production qui était efficiente, puis en même temps avoir un produit qui était très bon sur un point de vue nutritif.
Okay.
Puis encore, toutes les fois, c'est le côté éco-responsable de la production qui nous intéressait.
Mmh. Juste clarification, le ténébrion meunier, c'est ce qu'on appelle aussi le ver à farine.
Le ver à farine, c'est bon. Exactement. C'est exact.
Dans le fond, dans ton entreprise, on parle d'une ferme, on peut dire que c'est une production. Est-ce que tu pourrais nous imaginer un peu à quoi ça ressemble si on va visiter ta ferme, l'espace que ça prend, comment sont élevés les insectes?
Ben, en ce moment, je vous dirais que c'est une ferme laboratoire qu'on a. Okay. Donc, la superficie est moindre que ce qu'on vise dans le futur.
Okay.
Mais on parle d'une ferme d'environ 2700 pieds carrés. Donc, c'est un bâtiment, un entrepôt pratiquement. Puis je vous dirais que ça a rien à voir avec un élevage conventionnel du bétail, en fait. Ça ressemble plus à un laboratoire. Même si on l'appelle une ferme laboratoire, c'est juste que c'est notre première phase de développement d'entreprise. Mm-hmm. Mais ça va rester comme ça dans le futur, même à plus grande échelle. Donc, c'est une production à la verticale. Donc, on peut produire une quantité de protéines plus importante en hauteur. Donc, ça devient intéressant, encore une fois, pour l'utilisation de la superficie.
Mm-hmm.
Puis, les insectes sont élevés dans des bacs. Donc, ils sont de grade alimentaire. Puis le but de ça, c'est de pouvoir justement les empiler.
Est-ce qu'ils ont besoin... Est-ce qu'ils sont sur un substrat quelconque? Sont-ils direct dans le bac ou...
Oui, ils sont directement dans le bac okay. avec un substrat.
Okay.
Il y a plusieurs substrats qui sont utilisés dans l'industrie. Ça va dépendre des entreprises. On est pas mal dans une phase embryonnaire de l'industrie. Donc, les gens font de l'essai-erreur, testent qu'est-ce qui est optimal pour la production. C'est généralement des grains céréaliers pour le ténébrion meunier. Donc, il y en a qui vont utiliser des coproduits de la transformation. Il y en a qui vont utiliser l'avoine directement, le blé, peu importe.
Okay.
Donc, ça va dépendre vraiment des entreprises. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de recherche et développement qui se fait présentement. Puis, c'est sûr que c'est dans un environnement contrôlé également parce que l'insecte a besoin de chaleur et d'humidité pour croître. Okay. Donc, c'est un environnement qui est très contrôlé. On a une température définie qui est quand même assez élevée. Donc, c'est comme une petite production exotique, même en hiver. On a la chance de pouvoir travailler en culotte courte si on veut. On le fait pas, là. On a nos sarraux et tout, mais quand même.
Okay.
C'est comme travailler dans une serre, pratiquement. Tout Exactement. Est contrôlé, la température, l'humidité. Puis, tu parlais du paillis. Est-ce que le paillis, c'est la nourriture des ténébrions ou est-ce que vous leur donnez autre chose à manger?
Non, le substrat, c'est effectivement, c'est la nourriture. Donc, c'est un peu le lit et la nourriture de l'insecte. Donc, ça vit directement dans son substrat, dans son alimentation. Mais c'est naturel pour l'insecte de faire ça parce que, généralement, on se le cachera pas, le ténébrion meunier, c'est une peste. Dans la production agricole, souvent une peste dans les meuneries. Ça va consommer les grains. Donc, ça va rentrer dans les bâtiments. Ça mange l'isolation dans les bâtiments. Oh, ouais, mange vraiment de tout. Donc, ça peut être une problématique pour certains. Pour nous, c'est une source de protéines.
Ben oui, vous valorisez finalement ce qui est un problème pour d'autres.
Exactement, exact.
Clairement, il ne faudrait pas qu'ils s'échappent.
Non. Ça serait peut-être un peu difficile, j'imagine, mais ouais.
Tu parlais que tu avais beaucoup pris d'informations là, en Europe, en France, parce que ici c'est quand même une culture émergente. On se demandait comment tu avais fait pour te renseigner, te spécialiser, te former, parce que quand on cherche sur le web, c'est pas nécessairement quelque chose qui est très accessible là, pour le moment.
Effectivement, ça a été la portion difficile du démarrage de l'entreprise. C'est difficile de trouver une expertise directement. On peut aller chercher différents secteurs qu'on pense qui sont pertinents pour la production. Cependant, c'est très rare les gens qui vont dire « moi, je suis spécialisé dans l'industrialisation de la production des insectes pour en faire un ingrédient
ouais. ».
Ça n'existe pas. Donc, on essaie d'aller chercher une expertise par-ci, par-là, donc dans la transformation alimentaire, dans l'agronomie, dans toutes les sphères qui entouraient la production des insectes. Mais ça a été quand même un défi important parce que on découvre de plus en plus, mais si on faisait une recherche dans la littérature scientifique, il y avait très peu d'informations à ce sujet-là. Donc, ça a été ça fait trois ans que Neoxys a été fondé, puis on est encore en phase de démarrage parce que on développe encore des méthodes optimales, puis on n'est pas encore, c'était à 100% à dire c'est comme ça qu'il faut faire, puis on est à l'aise de partir à grande échelle, mais on travaille fort pour...
Est-ce que tu dirais que ça change pas mal depuis 3 ans? Y a-tu plus d'informations accessibles ou, je sais pas, y a-tu de la formation qui se développe là-dedans un peu?
Ouais,
ou...
définitivement, y a plus d'informations. Ben nous-mêmes, on offre des formations, mais c'est sûr que l'information qu'on donne, c'est basé sur des faits qu'on a récoltés dans le passé. Donc, on s'avance pas trop parce qu'on n'est pas capable de dire si tous les faits sont exacts.
Mm-hmm.
Donc, on y va vraiment dans ce qu'on sait, dans ce qu'on est sûr. Donc, l'information est encore très très minimale. Il y a pas énormément d'informations qu'on peut trouver, là.
Okay.
Mais en même temps, c'est fascinant parce que tout est à faire. Fait que c'est comme un monde à construire. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. On parlait de la production. En fait, avec mes lectures, j'ai cru comprendre que la production d'insectes que tu fais est pas directement destinée aux consommateurs.
Oui, exactement. Nous, on vise pas directement à commercialiser des produits sur les tablettes. Déjà des supermarchés qui ont commencé à intégrer les sources de protéines comme l'Oblast, en fait, qui font la protéine de grillon. Nous, on fait du vrac pour les transformateurs. Donc, on commercialise, on fournit des ingrédients en lot pour que les gens puissent les intégrer dans leur gamme de produits.
Okay.
Donc, c'est vraiment pour ça que je parlais tantôt d'avoir un impact à grande échelle. C'est comme ça, on peut aller viser plus de produits, puis ça devient intéressant pour les gens d'avoir un produit qui est plus éco-responsable, puis de dire notre source de protéines va avoir un impact minime sur l'environnement par rapport à peu importe la source de protéines.
Mm-hmm. Est-ce que tu penses que c'est plus facile ou plus difficile de comme vendre ça aux transformateurs plutôt qu'aux consommateurs directement?
Je pense qu'en ce moment, c'est plus difficile aux transformateurs.
OK.
Il y a une curiosité au niveau des consommateurs. Je pense que le marketing peut avoir un impact sur les gens. Puis les gens s'y intéressent. Il y a beaucoup de curiosité de ce côté-là, tandis qu'un transformateur, ça va être plus réfléchi. Puis, tu sais, on parle souvent d'aspect monétaire. On parle aussi d'impact. Il faut qu'ils fassent des tests dans les productions.
Mm-hmm.
Donc, c'est un défi qui est plus grand au niveau des transformateurs. Consommateurs, il y a eu des produits qui se sont commercialisés, comme je disais tout à l'heure, dans les supermarchés. Puis, il y a eu un engouement important par rapport à ça.
Mm-hmm.
Donc, en ce moment, je pense que c'est plus dur pour un transformateur, mais dans le futur, je pense qu'il va y avoir un virage.
OK.
Parce que j'imagine que, dans le fond, une farine de ténébrion, par exemple, va réagir différemment dans une recette qu'une farine de blé normale.
Exactement.
OK. Fait que tout est à reconstruire, retravailler des recettes. Fait qu'il y a beaucoup de démarchages à faire, j'imagine.
Ben oui. L'aspect de transformation alimentaire est très, très, très important.
Okay.
C'est notre défi majeur est là. En fait, c'est bien de pouvoir produire une protéine qui est intéressante, mais il faut être capable de l'intégrer dans des produits.
Clairement.
Donc, il y a l'aspect nutritif qu'on parlait, nutritionnel en fait, mais il y a l'aspect fonctionnel qu'il faut pas oublier, puis c'est définitivement l'aspect le plus challengeant, le plus gros défi de la production, c'est ça.
Puis justement, ça fait quelques fois qu'on mentionne l'intérêt nutritionnel, puis l'intérêt écologique aussi du fait de consommer des insectes, en fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de pourquoi c'est plus écologique?
En fait, ça, c'est un point que je fais généralement attention quand je l'apporte. Je pense qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent en ce moment dans l'industrie, puis moi, j'ai une certaine problématique avec ça. J'essaie d'être toujours le plus transparent possible. Donc, quand je fais une production, avant d'avancer des chiffres, j'essaie de me baser sur des faits, sur des données. En ce moment, les productions diffèrent énormément. Un producteur X peut avoir une production qui est complètement différente d'une production Y, puis les chiffres sont toujours les mêmes quand ils sont avancés. Donc, pour nous, on sait qu'il y a un impact qui est moindre qu'une production bovine, par exemple.
Mm-hmm.
mais on ne sait pas à quel niveau. Donc, est-ce que c'est 18 fois moins? Est-ce que c'est 20 fois, 25 fois, 30 fois? Mm-hmm. On ne le sait pas. Donc, je m'avance très rarement sur les chiffres. On a un modèle clair que quand on va avoir une production qui va être optimisée, qui va être mise en place, on va faire une étude de cycle de vie complète.
Super.
Donc, on va apporter des vraies données sur ça. Je pense que c'est très important. Mon mot d'ordre chez Neoxys, c'est la transparence, autant au niveau de la transformation que de la production. Mais oui, il y a un impact qui est moindre que certaines productions animales actuelles.
Mm-hmm. Ça prend clairement moins d'espace, en tout cas, à la base.
Définitivement, moins d'espace, même au niveau des ressources, de l'alimentation, de l'eau. Donc, on sait que l'empreinte environnementale est moindre, mais à quel niveau? Je fais toujours attention d'aborder ce point-là.
Mm-hmm. Puis, tu sais, nous, c'est sûr qu'on était intéressés. Normalement, notre podcast parle d'agriculture urbaine. Fait que, tu sais, on a pensé à ça justement dans le contexte urbain. On sait, justement, c'est un élevage, vu qu'il se fait à la verticale, puis comme à l'intérieur, c'est parfait pour un milieu urbain, donc...
Oui, absolument, absolument, mais il faut faire attention aussi que c'est une production animale, donc il y a des déchets, il y a des rejets de la production, donc...
J'avais pas pensé à ça.
Quand on a, à petite échelle, ça peut être très, très, très intéressant. Si on tombe à grande échelle, on vous le cachera pas, il y a du fumier, un insecte, ça produit du fumier, donc il faut traiter ce fumier-là, il faut traiter les résidus, il faut traiter les déchets qui sortent. Mais je pense définitivement que c'est un type de production qui s'adapte très bien à un modèle urbain.
Mm-hmm.
Mais c'est de bien le planifier. Je pense que c'est de voir, si je dirais pas à n'importe qui, partez-vous une production d'insectes dans un garage, par exemple, ou un petit commerce.
Mais c'est
une
question qu'on avait. Est-ce que ça se fait à la maison, tu sais, mais...
Ben, en fait, c'est ça. Je le recommanderais pas pour un point de vue industriel.
Ouais.
Je vous dirais, premièrement, allez voir la municipalité, regardez au niveau des zonages, faites-vous autoriser... Je pense qu'il y a un aspect réglementaire qu'il faut valider une production agricole. Mais il y a toujours... C'est sûr que c'est un bon modèle pour pouvoir intégrer dans un milieu urbain.
Mm-hmm.
Au niveau de la maison, je sais pas si c'est une question...
Oui, oui. Ouais, ouais.
Au niveau de la maison, oui, c'est une production qui est intéressante, je vous dirais, pour une consommation personnelle.
Mm-hmm. OK.
Je recommanderais à personne de faire une production d'insectes dans son domicile pour le commercialiser auprès des consommateurs. Je vous dirais encore une fois, on parle de réglementation de ce côté-là, donc il faut faire attention. Consommation personnelle, par contre, je pense que ça peut être super intéressant. Il y a des gens qui sont curieux, voir qu'est-ce que ça goûte, comment je peux les élever. En fait, il y a une entreprise québécoise qui produit des kits de démarrage pour une production personnelle à la maison.
Oui. Oh, wow.
Donc, il y a carrément un bac avec des insectes qui sont fournis, le substrat, puis il y a des vidéos de formation en ligne. Donc, ça peut permettre aux gens de faire leur petite production à la maison, de le déshydrater à la maison, puis de l'intégrer dans l'alimentation. Donc, si ça intéresse quelqu'un...
C'est quel genre d'insecte, par curiosité? C'est-tu aussi...
Ténébrion meunier aussi. Okay. Absolument.
C'est bon. Puis, tes produits sont aussi destinés pour la production de nourriture animale, non? C'est aussi une voie d'avenir, en fait. Parce que on parlait d'élevage à la maison, mais je pensais à notre collègue Marie-Hélène qui faisait un élevage de mouches soldats pour ses poules, c'est ça? Fait qu'il y a moyen aussi là, de penser à nourrir nos animaux avec les insectes. Non?
Absolument. Je pense que la mouche soldat noire en est un bon exemple, justement, pour une production au niveau des poules, pour apporter une source de protéines. Puis en plus, c'est très naturel pour une poule de consommer un insecte, d'autant plus vivant.
Elle va moins avoir le petit dégoût qu'on a... Exactement. D'instaurer culturellement, mettons.
Il n'y a pas la barrière psychologique en tant que telle.
Non, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, j'avais jamais pensé à la perspective du fumier de Ténébrion, mais je me demandais, est-ce que tu penserais, mettons, dans un futur moyen ou lointain, qu'on pourrait comme valoriser ce fumier-là en agriculture ou ça vaudrait pas la peine?
Absolument, c'est des projets de recherche qu'on fait en ce moment.
Wow.
On a un projet de recherche depuis environ un an. On va tester l'aspect fertilisant du fumier pour voir dans quelle production on pourrait l'intégrer. Donc, notre objectif, nous, c'est de valoriser tout ce qui sort de notre production.
Exact.
Il y a très peu de choses qui sortent de notre production, mais le fumier en fait partie. Puis, on est en train de voir sur quelle production on pourrait l'intégrer pour avoir des avantages en termes de performance, là. Donc, oui, on veut le valoriser définitivement, puis un très bon potentiel aussi avec les résultats qu'on a eus jusqu'à présent, là.
Wow, c'est merci.
tantôt, on parlait, vraiment au début, là, on parlait de, bon, le fait que notre réalité nord-américaine est moins, tu sais, on a moins de problèmes de sécurité alimentaire puis tout ça, mais donc, j'imagine aussi, en plus, avec notre culture, c'est d'autant plus un gros défi de comme faire valoir l'intérêt de manger des insectes. Fait que comment vous faites ça pour comme convaincre les gens de manger des insectes?
Ben en fait, nous chez Neoxys, on a un modèle. On a parlé de production animale tantôt, nourrir les animaux. Notre modèle initial chez Neoxys, c'est de nourrir les animaux domestiques. Donc, okay. L'alimentation humaine, okay. c'est une phase 2 du projet.
Okay.
On pense que le marché de l'alimentation des animaux domestiques peut être intéressant. On a besoin d'une source de protéines alternatives.
Mm-hmm.
Puis, on ne se le cachera pas, il y a quand même du gros volume au niveau de la... Excusez l'anglicisme, mais le pet food, là.
Ouais, ouais, tout à fait.
Il y a quand même un gros volume. Puis, je pense qu'on néglige souvent... l'intégration des protéines dans ce produit-là, parce que mm-hmm. ça utilise énormément de ressources aussi.
Ben oui.
Donc, nous, c'est principalement le marché qu'on va viser. Il y a d'autres entreprises qui se spécialisent plus dans l'alimentation humaine. Pour okay. nous, on a choisi un différent chemin. Mm-hmm. Je pense que les deux sont très bons. L'aspect nutritif en fait partie. Les gens sont de plus en plus à la recherche de produits qui sont naturels,
mm-hmm.
Qui sont peu transformés, en fait. Donc, on essaie d'aller chercher la simplicité. Puis, je pense que je l'ai mentionné trois fois, mais la transparence, je pense que les gens recherchent ça beaucoup en ce moment.
Oui.
La production des insectes, c'est une production qui est très, très simple. Puis la transformation également. Donc, quelqu'un qui veut faire attention à la fois à l'environnement puis à sa santé, je pense que c'est un bon ingrédient
mm-hmm.
qui est intégré, mais il y a définitivement une barrière psychologique ouais. à passer.
Mm-hmm.
C'est tout à fait normal. C'est encore très nouveau en Amérique du Nord, là, ben au Canada et ouais. aux États-Unis.
Tout ouais. à fait.
Donc,
Et toi, est-ce que t'en manges, par curiosité, ou est-ce que t'en avais déjà mangé aussi avant de te lancer dans la production?
Oui, ben, je pense que tout le monde en a déjà mangé des fois à l'insectarium ou des oui. petits événements comme ça.
Je pensais que t'allais dire sans le vouloir.
Sans le vouloir.
Sans le vouloir, c'est effectivement un cas très fréquent, là. Il y en a beaucoup dans les aliments de tous les jours, mais dans les événements en particulier, oui, j'en avais consommé. Il y a souvent des grillons, des criquets dans le chocolat, des trucs mm-hmm. comme ça. En ce moment, je vous dirais que je l'intègre pas nécessairement dans ma production alimentaire.
Mm-hmm.
C'est pas une raison... C'est pas que ça me dégoûte en tant que tel. C'est qu'en ce moment, on est en... On veut développer des produits, puis on veut s'assurer que les produits soient comestibles préalables. Donc, on veut s'assurer qu'il y ait de moins... Je vais y aller plus dans le technique, mais des charges microbiennes. On veut s'assurer que ça soit très, très, très comestible et qu'il n'y ait pas de danger pour l'humain. Mm-hmm,
tout à fait.
Donc, on fait attention de ce côté-là. Puis, je vous dirais que nos productions actuelles sont pas énormes. On est en phase laboratoire. On planifie un projet d'expansion.
Mm-hmm.
Donc, ce qu'on produit, on l'utilise soit pour la recherche et développement ou soit pour fournir des échantillons à des clients. Donc, fais attention, mais on en a consommé, puis c'est définitivement pas quelque chose qui nous dégoûte en tant que tel.
J'imagine qu'à force de travailler, à les voir, on passe par-dessus.
Exactement.
Tout à fait. Puis on l'a pas mentionné, mais on parlait que c'est une production de Québec, mais est-ce que tu pourrais nous dire exactement où vous êtes situé?
Nous, on est dans la MRC de Lobinière, okay. qui est sur la rive sud de Québec.
Oui.
Je sais pas si vous connaissez Saint-Apollinaire, Laurier-Station.
Ouais, oui.
On est un peu entre les deux, on est à Saint-Flavien.
Okay.
Donc, on est sur des terres agricoles.
Okay.
On a bâti le bâtiment juste pour faire notre ferme laboratoire, pour pouvoir tester nos procédés, produire nos premiers échantillons, mm-hmm. puis ensuite faire la recherche et développement en parallèle. Donc, on est installé là. Zonage agricole, je pense que c'est un point qui est important.
C'était-tu obligatoire, ça, je me demandais, j'imagine?
Ça dépend toujours des municipalités. Il y a des municipalités qui vont l'autoriser dans le commercial, mais très rarement, je vous dirais. On tombe plus dans une production agricole.
Tout à fait.
Donc...
OK.
Puis, je sais pas, est-ce que vous avez déjà pensé peut-être à faire des visites pour démocratiser un peu la production d'insectes, peut-être pour que les gens aient moins peur ou... Je sais pas si c'est possible au niveau de... parce que c'est de grade alimentaire, je sais pas si on pourrait même visiter là, votre ferme.
Oui, il y a des possibilités. C'est sûr qu'on fait attention justement à la biosécurité. C'est quelque chose... C'est de l'inconnu encore dans les productions d'insectes. On fait attention plus qu'autre chose. Il n'y a pas de cas répertoriés de maladies, peu importe, mais on est mieux pas se lancer. Mais oui, on fait des visites. C'est sûr que c'est pas ouvert à tout le monde parce qu'on essaie de fermer ça le plus possible. C'est un environnement contrôlé, c'est clos.
Mm-hmm.
C'est quelque chose qu'on fait attention, mais il y a toujours possibilité de le faire, oui. Puis je pense que ça va être plus intéressant quand on va avoir passé à notre mise à l'échelle dans le futur qu'on prévoit pour 2020. Parce qu'en ce moment, je vous dirais que, comme je vous dis, c'est le laboratoire, donc c'est plus petit, c'est peut-être moins impressionnant que ce que ça va avoir l'air dans quelques mois.
Super!
Là, je me rends compte qu'on t'a pas posé une question majeure qui est comme, qu'est-ce que ça goûte, un ténébrion meunier?
Ça goûte qu'est-ce qu'on lui donne pour manger, en fait.
Okay.
Donc, dans la dernière phase de croissance.
Okay.
Donc, c'est sûr que ça va prendre une saveur, mais à la base, il y en a qui disent que ça goûte la noisette. C'est pas un goût que j'ai cerné dans le ténébrion meunier. Je vous dirais que c'est plus le côté umami de la chose, là, l'essence de la terre, mais c'est très subtil, en fait. Là. C'est très subtil. Puis si on intègre des herbes ou des trucs comme ça, ben on peut capter une saveur qui est... Donc, c'est une manière de l'intégrer. Il y en a qui veulent cet aspect gastronomique-là,
tout à fait.
De dire on l'intègre dans un produit parce que ça apporte une saveur. Je donne un exemple farfelu, mais citronné, disons. Donc,
OK, cool. Mais est-ce que là tu me soulèves toutes sortes de questions dans ma tête? Parce que là, tu parlais, bon, qu'ils mangent des produits céréaliers à la base, tu sais, la farine, des choses comme ça, mais est-ce qu'ils peuvent manger des légumes, des herbes?
Absolument. Ça, ça valorise vraiment de tout. Ça se nourrit vraiment de n'importe quoi, en fait. Je le disais tout à l'heure, c'est une peste, donc on peut le retrouver dans les productions agricoles. Souvent, ça va entrer dans les murs, ça mange la laine minérale. Ça mange vraiment de tout. Il y en a qui disent que ça peut digérer le styrofoam, le styromousse.
Ah, ouais.
Donc, il y a des enzymes, mais tu sais, je pense qu'il y a de la recherche et développement qui se fait là-dessus. Donc, ça consomme vraiment, vraiment de n'importe quoi. Cependant, nous, on fait attention avec toutes les sources qui sont humides. Donc, faut apporter un aspect d'humidité dans leur alimentation.
Okay.
Faut qu'il y ait une source d'eau. Ça va favoriser la croissance, mais il faut faire attention aux contaminations pour être sûr que le substrat sur lequel ils sont élevés soit pas contaminé par des champignons, des bactéries ou peu importe.
Okay.
Donc, il y a un aspect de contrôle qui se fait de ce côté-là, mais ça mange n'importe quoi. Là.
OK. Fait que dans le fond, c'est pas nécessairement stérilisé. Vous ne stérilisez pas nécessairement les grains avant de leur donner.
Non, les grains sont pas stérilisés en tant que tels. Nous, on n'utilise pas de matière résiduelle pré-consommation.
Okay.
La mouche chaude noire, souvent, le modèle, ça va être de valoriser les déchets alimentaires, en fait. Ténébrion meunier, c'est moins adapté pour ce modèle-là. C'est beaucoup moins vorace. Ça mange moins. La mouche chaude noire, ça mange très, très, très rapidement. Ça mange énormément. Donc, pour une municipalité ou une province qui voudrait valoriser tout le gaspillage, malheureusement, qu'on vit actuellement, mais c'est une bonne façon de le valoriser puis de produire une protéine par la suite qui pourrait être redistribuée dans une production agricole ou alimentaire. Là.
Okay. Puis le fait que tu dis que c'est justement vraiment une peste qui peut comme manger l'intérieur de tes murs, puis tout ça, est-ce que, vous, ça, c'est un enjeu pour votre usine? Dans le sens où, est-ce qu'il faut que vous fassiez attention à, genre, qu'est-ce qui se passe avec vos insectes?
Oui, absolument. Ben c'est sûr que nous, c'est très, très, très contrôlé. L'avantage du ténébrion meunier, c'est que ça vole pas, ça grimpe pas.
Mm-hmm.
Le grillon, c'était un défi qu'on avait, en fait. C'est des productions au sol, puis en même temps, ça saute, c'est très bruyant. Ténébrion meunier, ça a des ailes. La phase adulte a des ailes, mais ça les utilise pas. Donc, ça devient vraiment intéressant. Il y a beaucoup moins de façons qui peuvent s'échapper. Ils sont dans des bacs. Ils ont la nourriture qu'ils ont besoin, la température qu'ils ont besoin, les sources d'humidité qu'ils ont besoin. Donc, pour eux, généralement, un insecte, ça va aller chercher sa manière de survie, puis ils ont aucun intérêt à... Parce qu'on leur a pas demandé, là. Mais je vous dirais qu'ils sont très bien dans le substrat qu'ils ont.
Okay. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'échappée.
Non, exactement. On est encore à zéro.
C'est chanceux. Bon. Parfait. On voulait aussi aborder avec toi une association dont tu es président. Juste avant d'en parler, par contre, on va aller prendre un petit 2 minutes pour écouter la capsule horticole.
Allez, petit pois, petit pois, petit pois, c'est un légume très tendre. Allez, petit pois, petit pois, petit pois, ça ne se mange pas avec les doigts.
Si vous songez à fertiliser vos cultures avec un engrais, vous constaterez que l'offre est abondante et diversifiée. Comment s'y retrouver dans tout cela? Essayons d'en démystifier une partie. Tout d'abord, l'information sur le contenant. Peu importe l'engrais que vous choisirez, il y aura toujours 3 lettres d'inscrites. N pour azote, P pour phosphore et K pour potassium. Ceci correspond aux 3 éléments dont les végétaux ont habituellement le plus besoin. Il existe également des éléments secondaires et des oligoéléments qui sont aussi très importants, mais cet aspect ne sera pas approfondi aujourd'hui. L'azote stimule la croissance des tiges et des feuilles. On dit que c'est l'élément qui verdit. Le phosphore stimule le développement racinaire et la floraison. Le potassium est utile pour le développement des fruits et pour rendre les plantes plus résistantes. La concentration sera inscrite sous forme de pourcentage. Dans un engrais biologique, on retrouve aussi un grand pourcentage de matière organique ainsi qu'une multitude d'autres éléments qui ne sont pas nécessairement indiqués. Si un engrais contient un élément de plus, par exemple le calcium, il sera également indiqué sur l'emballage. Choisir un engrais biologique ou de synthèse. L'engrais biologique est composé d'ingrédients naturels comme le fumier de poule, la farine de plume ou de sang, les émulsions de poisson ou d'algues. Ils contiennent des macroéléments, des éléments secondaires et des oligoéléments car ils sont issus d'ingrédients variés et complexes. Leur assimilation est plus lente, mais ils sont moins sujets au lessivage. Les concentrations n'ont habituellement pas la capacité de brûler les plantes. Les engrais conventionnels sont issus d'un processus de synthèse en usine. Le contenu et le dosage est parfaitement contrôlé et on retrouve seulement les éléments indiqués. Ils sont très rapidement assimilables, mais également sujets au lessivage. Les engrais qui sont très concentrés peuvent brûler les plantes à doses excessives. Ensuite, l'engrais se retrouve habituellement sous deux formes, l'engrais liquide et l'engrais granulaire. L'engrais liquide est la plupart du temps dilué dans l'eau d'arrosage pour un usage au sol ou préparé dans un vaporisateur pour être appliqué directement sur les feuilles. On retrouve des émulsions d'algues et de poissons. Ces engrais servent le plus souvent de fertilisation d'appoint pour corriger rapidement une carence minérale ou être jumelés à une fertilisation solide. Lorsque vaporisé sur les feuilles, l'engrais liquide est peu mobile dans la plante, c'est une fertilisation spécifique pour obtenir un effet rapidement. Dilué dans l'eau d'arrosage, il sera absorbé par les racines, donc davantage mobile. L'engrais granulaire est plus complet et sa libération est plus lente. Un exemple commun est le fumier de poulet granulé. On l'applique directement au sol en l'intégrant superficiellement à la terre. Il bénéficie à la plante au complet, y compris les racines, contrairement aux engrais foliaires très localisés. Les granules se diluent progressivement à force d'arrosage ou avec la pluie et les éléments sont ainsi rendus disponibles. Pour le dosage, suivez la posologie inscrite sur l'engrais que vous aurez acheté. Vous pouvez combiner les deux types d'engrais pour une fertilisation en continu tout au long de la saison, mais ne vous compliquez pas la vie et adoptez le type de fertilisation qui semble le plus simple pour vous.
Alors, Jérôme, c'est ça, on le disait, tu es président et cofondateur aussi de l'Association des éleveurs et transformateurs d'insectes du Québec. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que c'est?
Oui, ben en fait, on a fondé cette association-là dans le but d'amener un aspect de collaboration entre les éleveurs au Québec. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail qui se faisait en parallèle. Donc, un producteur faisait telle recherche, l'autre faisait la même recherche, mais sans se parler.
Ouais.
Donc, ça l'a été. On essaie d'apporter ça tout simplement pour dire que les producteurs allaient pouvoir discuter ensemble. On l'a pas amené sous un aspect réglementaire. On n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues de personne. Mm-hmm. On n'est pas là pour contrôler les productions. C'est vraiment plus un modèle. On va favoriser la collaboration tout simplement, faire des événements, des regroupements, peut-être aider le public à mieux comprendre c'est quoi une production d'insectes, mm-hmm. de l'éducation, si je peux dire. Mais ça a été vraiment la raison pour qu'on le fait. Parce qu'on le vivait en tant que tel. On voyait qu'il y avait plein de gens qui faisaient du travail de leur côté. Puis le but, c'est pas de partager sa recherche et développement, mais c'est de discuter tout simplement.
Ouais.
Des fois, il y a des gens qui ont besoin d'équipement, de technique, d'aide en termes de main d'œuvre. Donc, c'est tout simplement pour favoriser cet aspect-là.
Okay.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font partie de l'association?
En fait, je vous dirais qu'il y a 40 membres actuel. Il y a 40 producteurs d'insectes au Québec. Il y a des stades très différents. Il y en a qui sont en pré-démarrage, il y en a qui sont déjà démarrés, mais on en répertorie environ 40 actuellement. Là.
OK. Puis est-ce que tu peux nous donner une idée de qu'est-ce qu'ils produisent? Est-ce que c'est toujours pas mal les mêmes sortes d'insectes ou il y a
trois insectes majeurs au Québec, mais pas mal partout. Là. L'industrialisation de la production des insectes, c'est principalement le ténébrion meunier, la mouche solde noire, puis le grillon. Okay. C'est les trois insectes qu'on retrouve dans le monde, en général. C'est les insectes qu'on retrouve au Québec également.
OK. C'est bon. Pas comme des cafards, comme en Chine, qu'on voyait une production. Ça, je pense que ça serait... Et on aurait encore plus une barrière psychologique ici.
Je pense que ça passerait difficilement.
Ouais, un peu plus. merci beaucoup, Jérôme, d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir nous parler.
juste pour terminer, en fait, j'aurais aimé ça. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment tu vois l'avenir de la production d'insectes, peut-être au Québec ou dans le monde? Si tu avais à rêver, pour toi, ça serait quoi dans 5, 10, 15 ans, peut-être?
Ben, je pense que l'objectif de la production des insectes, je parle beaucoup de production industrielle depuis tout à l'heure, mais je pense aussi que c'est une production qui est facilement intégrable à la maison. Donc, pour apporter une source de protéines intéressante, Puis si on veut diversifier son alimentation, mm-hmm. c'est hyper facile à faire. On peut valoriser les déchets qu'on produit. Donc, je le vois, oui, sur un point de vue industriel, parce que le groupe Neoxys, le but, c'est de vendre des ingrédients, de commercialiser des ingrédients qui sont éco-responsables et nutritifs. Mais je pense que les gens auraient tout à leur avantage de le tester directement à la maison, puis de peut-être essayer de l'intégrer dans leur production directement. Fait que moi, je le vois, ça va devenir un produit qui va être de plus en plus mainstream, excusez-moi mm-hmm. l'anglicisme, mais je pense que les gens vont vouloir de plus en plus l'intégrer. Ça prend un peu d'éducation, faut savoir comment ils sont élevés, faut comprendre que c'est pas élevé dans le sol ou bien... Mm-hmm. Tu sais, c'est très contrôlé, puis on peut faire la même chose à la maison. Puis je pense que ça peut être très, très, très intéressant. Puis on voit une ouverture depuis la création de Neoxys, il y a 3 ans, à aujourd'hui. L'évolution est phénoménale. Les gens sont de plus en plus ouverts. Avant, quand on a débuté le projet, les gens nous regardaient. On était les bizarres de la place. On voulait élever des insectes. C'était très, très, très spécial. Mais maintenant, c'est rendu normal. Ah oui, j'en ai entendu parler. Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai goûté. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus en plus normal. Puis, je pense que dans 10 ou 15 ans, ça va être un ingrédient au même titre que les crevettes, par exemple. Les crevettes, c'était pas un produit qui était consommé. Même le homard. Le homard, c'était un déchet. C'était donné à des détenus. Puis, ça servait à engraisser les champs.
Moi non plus.
Ouais, le homard, en fait, c'était ils donnaient ça à des détenus. Puis, les détenus se sont tannés. Puis, ont commencé à engraisser les champs avec le homard. Puis maintenant, c'est une nourriture de luxe.
Ben ouais.
Donc, il y a une évolution qui se fait dans l'alimentation, puis c'est tout à fait normal. Puis je comprends les gens qui sont pas ouverts à le consommer actuellement, mais je pense qu'il faut juste faire preuve d'ouverture d'esprit, mm-hmm. puis c'est pas moins comestible qu'une crevette, par exemple.
Ben non. Mais puis comme tu dis, ça, on le voit déjà comme dans des supermarchés, là, ça commence quand même à rentrer, entre autres, là, justement, de la farine de grillon. Tu sais, même dans les épiceries en vrac, là, à Québec, on en trouve. Là, fait que,
Les barres d'énergie, beaucoup. Pour les gens qui font du sport, on en voit vraiment régulièrement, c'est très courant.
Ouais.
Exactement.
Ben merci, c'est vraiment passionnant tout ça. Ouais. je suis vraiment contente que tu sois venue nous parler de ce que tu fais, de ton entreprise.
Ben merci de m'avoir invité.
Ça me fait plaisir.
Merci.
Et on vous rappelle que cet épisode vous a été présenté par Caribou, le magazine de la culture culinaire québécoise raisonnée. Rendez-vous à caribou-mag.com pour vous procurer les derniers numéros.
En tout cas, c'est tout qu'un sujet fascinant, vraiment. Auquel on réfléchit jamais, mais
tout à fait.
On sent qu'il y a plein de choses à apprendre, puis qu'il faudra réinviter Jérôme, peut-être. Toi, Marie-André, t'avais-tu déjà mangé des insectes?
J'avoue que je n'avais jamais mangé... je n'ai jamais mangé d'insectes. Mm-hmm. Est-ce que j'en mangerais? Je sais pas, mais clairement, cette entrevue-là m'a passionnée, puis ça m'a fait cheminer dans ma façon de voir les insectes dans l'alimentation. Mm-hmm. Puis toi, Marie-Hélène?
Ben, j'en ai déjà mangé, un peu comme il disait dans l'entrevue, Jérôme, mais c'était plus dans des contextes... c'était pas à l'insectarium, mais... Confession, j'ai fait le camp de jour des débrouillards quand j'étais jeune. Fait que dans les expériences scientifiques, on avait mangé justement des verres à farine, mais tu sais, enrobés dans le chocolat. Une fois dans le chocolat, ça goûte plus rien, là. Fait que c'est ça. Puis j'ai déjà mangé grâce à Dominique ici présent, j'ai mangé de la farine de grillon dans des muffins. Mais c'est pas mal ça. Fait que moi aussi, je sais pas trop ce que j'en pense. Ben, je pense que sous forme de farine, dans quelque chose de transformé.
Ah oui.
Ça peut passer, là. Puis d'en manger comme ça, va falloir que je travaille encore un petit peu sur moi. Et puis, on aimerait ça savoir si vous, auditeurs et auditrices qui nous écoutez présentement, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, est-ce que vous seriez prêts à manger des insectes? Est-ce que ça vous dégoûte? Est-ce que vous en avez déjà mangé? Donc, venez nous en parler sous la publication de l'épisode sur Facebook ou sur Instagram, comme vous préférez. On est curieuse de vous entendre là-dessus.
Aussi, si vous souhaitez nous donner un coup de pouce, ben on vous rappelle que vous pouvez simplement vous abonner au podcast, ce qui est super parce que vous manquerez aucun épisode. Vous pouvez parler du mâche-patate autour de vous, puis n'hésitez pas à partager cet épisode-là à vos amis proches et même aux personnes qui n'aiment pas les insectes.
Puis en terminant, on vous invite aussi à suivre Les Urbainculteurs sur Facebook et Instagram, à Les Urbainculteurs, à vous abonner à notre infolettre, et à jeter aussi un œil à notre calendrier d'activités qui est disponible dans l'onglet « À propos » sur notre site web.
Un gros merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, beaucoup à Jérôme de Neoxys d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Vous trouverez, comme d'habitude, les liens pertinents sur la page de l'épisode, sur notre site web toujours. Puis on se revoit dans 2 semaines. Bye bye!
Salut!